À l'occasion de la disparition le 16 décembre dernier de Daniel Cuxac, En Sol Majeur vous propose la rediffusion de l'entretien qu'il nous avait accordé le 20 mai 2017.
Merci Daniel Cuxac de nous recevoir en Sol Majeur ici à Dakar dans votre belle demeure et surtout dans votre coin bureau, dans votre cachette secrète. C'est vraiment votre bureau où il y a marqué
Cuba.
On entre ? Waouh ! Mais dites-moi, c'est votre cachette secrète, ça ?
Caverne d'Ali Baba, comment on pourrait dire ? Caverne d'Ali Baba, transposée à Cuba.
Qu'est-ce que c'est qu'il y a, là, cette statue invraisemblable avec un gramophone ?
Eh bien, c'est très symbolique. C'est une statue qui représente l'Afrique. Et là, il y a un gramophone de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui représente la musique mondiale. C'est l'Afrique qui tient dans sa main la musique et qui l'offre au monde.
Merci pour RFI.
En Sol Majeur, Yasmine Chouaki.
En Sol Majeur, encore à Dakar pour un samedi salsa très cuivré qui ressemble à une promesse de barbecue dansant. On est installé dans le quartier Les Almadies, c'est le coin discret des Nantis et des Galets. Les prospectus parlent même d'un décor de film hollywoodien. Nous, on a devant les yeux un décor de gros fauteuil en cuir qui va bien à notre hôte et invité Daniel Cuxac. Alors je m'étonne que vous n'ayez jamais entendu ce nom, mais en même temps, c'est l'homme de l'ombre qui accompagne les autres dans la lumière. 45 ans d'expertise événementielle en Afrique, aux États-Unis et en Europe, élu homme du showbiz africain du siècle en 2000, producteur sur scène de centaines de stars mondiales, des frères Jackson à Taboulé, en passant par Myriam Makeba. Et enfin, grand collectionneur de musique salsa. Bref, on risque de trouver des perles dans le champagne. Alors dites-nous un mot sur ce bureau dans lequel on est installé.
C'est mon boudoir. C'est l'endroit où je me retrouve. Je me suis fait un petit coin qui me rappelle mon autre pays d'adoption, Cuba. Il y a des bandes enregistrées, il y a des CD, il y a des objets très rares qui ont appartenu à des musiciens d'époque. Disons que c'est toute ma richesse qui se retrouve dans ce que vous appelez mon bureau.
Ça sent la Havane. Hein. Vous avez des coffres-forts derrière vous.
Ce sont des coffres-forts de musique en live que j'ai enregistrés depuis pas loin de 50 ans.
Vous êtes un grand malade. Un grand collectionneur.
Malade. Je le dis moi-même, je le répète, à l'envi, je suis malade.
On reviendra sur cette maladie. Mais là, comme l'heure de passer à table n'est plus très loin, première question un petit peu ronde serviette.
Menthe, paprika, fraise des bois. Quelles sont les odeurs de votre enfance?
Je sais que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le chocolat. J'en consommais beaucoup au point qu'aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Un rejet, presque, qui fait qu'aujourd'hui, je n'aime plus ça. Voilà.
Vous êtes né en 44 à Kaolack, dans une famille, d'après ce que j'ai compris, assez puissante et puissamment métissée.
Mes ancêtres, du côté de ma mère, était d'une chefferie. Ce sont ces gens-là qui ont été à la base de la création de la ville de Kaolack. Au point que ses enfants, de père en fils, ont été chefs de canton. À l'époque, c'était les chefs suprêmes. Et de l'autre côté, mon grand-père, qui s'appelait Jean-Charles d'Erneville, un Français qui a vécu en Louisiane, a été l'un des premiers gouverneurs de l'île de Gorée. Par la suite, il a été transféré à Saint-Louis, où il a créé la grande famille d'Erneville.
Qui était votre mère ?
Une femme extraordinaire. Elle était métisse. Elle a été l'une des premières à monter la première maison de stylisme au Sénégal. C'est elle qui faisait les grands voyages avec le président Senghor. Elle a fait le monde entier. Tout ce qu'on fait quasiment aujourd'hui, toute la mode sénégalaise est quasiment basée sur ce qu'elle faisait il y a un demi-siècle.
Elle habillait les premières dames ?
Elle habillait tout à fait. Un jour, donc, une de ses assistantes, qui était son amie, avait commencé à la copier. Elle l'a quittée, elle est allée monter une maison parallèle. C'était avec l'épouse du président Modibo Keïta du Mali. Et elle lui a vendu les tenues qu'elle avait commandées, parce que c'était moins cher, je ne sais pas. Quelle ne fut pas sa surprise une semaine plus tard, quand le président Senghor est venu en personne chez ma mère pour lui dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez créer une incidence diplomatique ?» Parce qu'à l'époque, il y avait déjà des problèmes entre Modibo Keïta, qui penchait du côté de Senghor, parce que géographiquement, le Mali et le Sénégal, c'était quasiment le même pays, et Oufuette qui lui faisait...
Les appels de phare.
Voilà. Il y avait le groupe de Casablanca, il y avait le groupe de Brazzaville. Donc, Senghor qui vient dire à ma mère, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il paraît que vous avez fourni à madame, la première dame là-bas du Mali, des robes, etc., qui n'étaient pas comme ce que vous avez l'habitude de lui fournir. Donc ma mère a dit, moi, je n'ai pas eu de commande cet an dernier. Et c'est quand on a ramené les robes qu'on a épinglé cette dame, on peut dire que ça a sonné sa fin.
Pour terminer l'anecdote, moi je dirais, à quoi ça tient la diplomatie?
Bon. Voilà.
Alors pourquoi vous dites, Daniel Cuxac, que vous êtes né quasiment dans la musique cubaine?
Je n'ai pas souvenance d'un moment où on a écouté autre chose que la musique cubaine. À l'époque, c'était la mode. Et moi, je ne sais pas. Je suis tombé amoureux de cette musique. Vous voyez ce vieux phono qui est là, qui date de 1939.
C'est un gramophone magnifique.
Voilà. Alors,
je vais vous le voler dès que vous avez les yeux tournés.
Je peux vous le prêter, mais vous le donner, je ne pourrai pas. Alors donc, c'est moi qui le faisais marcher.
Ouais.
Et figurez-vous que chaque jeudi, chez moi, il y avait un concours de danse. Et c'est moi qui gagnais. C'était la seule condition pour qu'ils aient un goûter. Jusqu'au jour où il y en a un qui a gagné. Ah ben, j'ai dit, moi, non, c'est fini,
vous n'en aurez plus.
Et aujourd'hui, ce monsieur vit toujours et on en rit. Il me dit, alors, qui avait gagné? J'ai dit, je ne sais pas. Je crois qu'on avait triché pour toi ce jour-là.
Alors, on va convoquer votre pick-up en sol majeur. Je crois que ça peut marcher, l'image peut marcher comme ça, pour y poser l'un de vos premiers émois musicaux.
Suena trompeta querida, suena, suena melodiosa, con tus notas harmoniosas. Suena por toda la vida. Escuchando de tus notas cadenciosas las dulzuras de armonía sin igual. Renace en mí la dicha de días ya pasados que habían olvidado a mi pobre corazón. Óyela, sonando está. Óyela, sonando está. Óyela, sonando está.
On pourrait se croire à la Havane, mais en fait pas du tout. On est bien à Dakar, dans votre bureau salsa, Daniel Cuxac, avec cette pépite musicale. Qui c'est là qui chante?
C'est Antonio Machi.
Ouais.
Au passage, j'aimerais vous dire que cette appellation galvaudée de salsa, je ne l'aime pas du tout. Ça, c'est du son. Je n'écoute pas la salsa.
Je vous remercie.
Je n'aime pas la salsa.
Son que vous traduiriez comment?
S-O-N.
Mais ça se traduit comment?
Par cette musique que nous venons d'entendre.
Oui.
Musique sur laquelle les autres musiques se sont basées, ces musiques, pour créer ce qu'on a appelé la salsa plus tard. J'ai été l'un des acteurs de la création de cette musique salsa aux États-Unis, alors que je n'allais pas encore à Cuba. Et je le regrette un peu.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet Antonio Machin? On écoute.
Antonio Machin était un chanteur des années 30, très grand chanteur, qui avait quitté assez tôt La Havane pour s'établir en Europe, en France plus particulièrement. Il a été l'un des premiers interprètes de Manicero, un morceau très connu. Lui, le personnage, était déjà quelque chose, la musique, n'en parlons pas, et l'ensemble, tout simplement quelque chose de merveilleux.
Mais qu'est-ce que c'est, ce côté particulier?
C'est la manière de l'interpréter.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, bon, il y a, dans ce qu'on appelle le son, il y a plusieurs origines. Le son vient de la partie orientale de Cuba. Guantanamo jusqu'à Santiago. Et lui, il avait su faire un mélange très savant de ce qui venait de l'Orient, de Santiago plus particulièrement, avec ce qui se faisait à La Havane.
Et qu'est-ce qui venait de l'Orient et qu'est-ce qui venait de La Havane?
Le rythme n'est pas le même. En Europe, vous aimez beaucoup Compay Segundo. Compay Segundo ne jouait pas le son original. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'il ne jouait pas, ce n'était pas bon? Non, c'était bon.
Alors, cet Antonio Machin fait partie de votre immense collection de disques, Daniel Cuxac. On ira faire un tour, fouiller tout à l'heure dans cette collection. Mais revenons à votre parcours, à vous. Donc, il y a d'abord la danse. Votre concurrent, Emmanuel Sangaré, était le Fred Astaire du Sénégal. Si lui, c'était le Fred Astaire, vous, vous étiez quoi?
Moi, j'étais rien du tout. Un danseur,
même
un
pas
amateur.
Un petit Gene Kelly?
Alors, même pas. Alors, je vais vous raconter. Emmanuel Sangaré, qui est parti malheureusement il y a quelque temps, était le plus grand danseur du Sénégal. Il régnait sur ce qu'on appelle ici la Médina, la capitale de tout ce qui se faisait culturellement, la danse, etc. Il y avait une boîte de nuit célèbre qui s'appelait le Miami. Les gens de mon âge peuvent vous en parler. C'était la Mecque de la danse et de la musique. Tous les grands ensembles sont passés par le Miami. Et il y avait ce danseur-là qui s'appelait Emmanuel Sangaré. Et il faisait le grand écart que personne ne pouvait imiter. Jusqu'au jour où est arrivé Daniel Cuxac, qui a remis en cause son trône. Et un jour, il y a eu un concours à la Nuit du Port. C'était à la fin des années 50. Et j'ai gagné devant lui. Mais on est restés amis à partir de là. Mais j'avais un tel respect pour lui. Moi, je crois qu'il est resté dans l'histoire. C'était le meilleur.
Alors, Daniel Cuxac est devenu, parce qu'il va falloir résumer votre longue vie, maître. Vous avez été d'abord steward, de façon très étrange, j'imagine l'élégance du monsieur. Vous avez, c'est peut-être en lien d'ailleurs, vous avez pu ouvrir un magasin de musique, vous êtes approvisionné. Et oui, en faisant...
Qui vous l'a dit?
Mais je ne sais pas, mon petit doigt.
Quelque part, on vous l'a dit.
Absolument. Vous êtes mis ensuite à produire les futurs grands du continent, et beaucoup de Congolais d'ailleurs. Franco Taboulet, Papa Wemba, Tchalamwana, Sam Mangwana. Ça, c'est un Angolais qui a été adopté par le Congo. Et je me demandais justement votre regard sur ce que pouvait faire l'État sénégalais aujourd'hui pour les artistes.
Ils ne font rien du tout, rien du tout. Ici, le ministère de la Culture, c'est un ministère de la Culture vide. En Afrique, la culture n'a pas la place qu'elle mérite. Il y a tellement de choses qu'on nous vole. J'ai toujours dit qu'on peut nous voler, on l'a fait par le passé, jusqu'à notre sang. Mais la culture qu'on a en nous-mêmes, qui coule dans nos veines, c'est intarissable. Et malheureusement, nos institutions, etc., ne prennent pas cet aspect au sérieux. Nos gouvernants ne sont pas conscients de ce que représentent les arts et la culture. Personne n'a eu mon parcours. J'ai été décoré dans le monde entier. Vous voyez ici, diplôme. J'ai eu des coupes, j'en ai à Paris, j'en ai partout. J'ai des dizaines et des dizaines de coupes et de décorations. Pas une seule fois, on ne m'a décoré dans mon propre pays.
Quel est l'objet le plus précieux dont vous êtes en possession?
Dans la musique, j'ai des enregistrements que même Cuba n'a pas. Le ministre des Affaires étrangères, en son temps, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, qui est un grand amateur de musique afro-cubaine, sachant qu'il ne pouvait pas obtenir cette pièce avec Daniel Cuxac, était passé par le ministre des Affaires étrangères de Cuba. Alors moi, j'étais là en train de produire un disque, et le ministre des Affaires étrangères me fait appeler pour me dire qu'on organise un dîner pour moi. Alors, une grande fête, une table d'une trentaine de personnes, un orchestre qui joue tout ça en mon honneur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? À la fin, il m'a dit, écoutez, monsieur Cuxac, nous on a cherché partout. Il y a eu une demande officielle du ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui nous demandait cette pièce. Et partout, on nous a dit que c'est toi qui l'avais prise il y a une vingtaine d'années. Personne n'a Abelardo Barroso.
Et c'est qui?
c'était un chanteur, un sonero des années 20.
Et pourquoi c'est si précieux ?
Parce qu'il est rare. C'est, d'abord, il était bon, c'était l'un des meilleurs. J'ai les chaussures d'Abelardo Barroso, c'est le même chanteur, ici derrière vous,
c'est pas
à
possible.
Un mètre derrière vous, là, derrière.
Dans ce placard, là ?
Exactement.
Je peux ouvrir ?
Bien sûr, voilà. Voilà. Ah oui, Abelardo Barroso.
Vous êtes un très grand malade.
Je suis malade, moi. Je suis malade.
Très, très
je sais pas.
Malade.
Pour me soigner, c'est fini un peu plus. C'est trop tard. C'est trop tard.
Alors, vous avez produit les fameux Guignols d'Abidjan.
Oui.
Qui est la plus célèbre troupe de théâtre d'Afrique francophone. Pourquoi avoir voulu produire cette troupe-là ?
Je vais le dire.
Attendez, je repose la chaussure.
Pourquoi ? Je m'étais rendu compte que le théâtre africain, n'était pas vendu à l'étranger. Le langage qu'on utilisait était destiné essentiellement à une consommation locale. En Côte d'Ivoire, on se comprenait. Mais ailleurs, ça n'existait pas. Au Sénégal, le théâtre est en Wolof. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose et lui donner une autre dimension ? Je me suis mis à la recherche de talents. Donc j'en ai choisi 6. C'est comme ça qu'est né ce groupe-là, les Guignols d'Abidjan.
On en écoute une minute en sol majeur.
Safi,
oui.
Viens ici.
Qu'est-ce
que tu étais en train de faire avec Wabi?
Comme quoi? On n'était pas en train de parler de toi.
Je t'ai dit que je ne veux plus te voir avec Wabi. Mais qu'est-ce que tu étais en train de faire avec elle? Tu faisais quoi? Ah bon, tu ne parles pas?
Wabi est venu me voir pour un problème. La tontine de ce matin-là, c'est Nassou qui a ramassé. Elle t'a fait quoi, Wabi?
Voilà les Guignols d'Abidjan, ici dans votre bureau cubain à Dakar, Daniel Cuxac. Les Guignols qui passent sur la télévision nationale ivoirienne ou pas du tout ?
Plus maintenant. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus connus à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire.
Comment ça se fait que le Sénégalais que vous êtes s'est investi professionnellement comme ça en Côte d'Ivoire ?
Ah, d'accord, on va y arriver, je suis sûr que vous-même allez y arriver. Parce qu'à Dakar, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant de partir, dès 69, j'avais une boîte de nuit. Et j'avais commencé à faire du spectacle. J'ai fait mon premier grand spectacle avec des grands frères à moi, de Myriam Makeba, qui avait pour épouse Stokely Carmichael, et on les avait expulsés. On lui avait dit, ok, tu peux venir, mais à condition qu'elle ne parle pas de politique. Elle a dit d'accord, elle est venue. Après le premier morceau, elle s'est drapée du drapeau de la Guinée, et elle a commencé à chanter. C'était des piques contre le président Senghor. Et Stokely Carmichael, qui était assis derrière le président Senghor, a enjambé la scène et se sont donné des coups. À 6h du matin, elle était rapatriée. Donc c'est des histoires que
belle
j'ai...
Belle anecdote, absolument.
Donc pour terminer, en Côte d'Ivoire, j'étais dans un terrain très favorable. On a été invité par le président Bongo. Pendant 45 jours, on a été invité par le président Mobutu. J'ai travaillé avec tous ces présidents, Compaoré et Jerry Rawlings du Ghana, et Adema.
Tout commence et tout se poursuit en musique, mais je vois bien qu'à travers vos anecdotes que la musique nous amène sur le terrain souvent de la politique et de la diplomatie. Je referme la parenthèse. Retour à votre collection de disques cubains avec quelque chose que je risque de vous voler aussi. C'est Orquesta Aragón avec Mario, comment vous prononcez ce titre ?
Nick Humberto.
Alors pourquoi ce choix ?
J'aime ce morceau, je l'aime beaucoup, beaucoup.
En Cienfuegos hay un cronista que se llama Mario Acea. Es un hombre popular que quieren de corazón. Nuestro mundo es su columna donde lucha con fervor. Por eso todos lo queremos, respetamos y aplaudimos su gran labor, que es la superación social, social, social. Juntos con Mario Acea, en Machado.
la piste de danse dakaroise Orquesta Aragon, la danse du corazón qu'on va poursuivre avec le producteur Daniel Cuxac, dont on rediffuse l'entretien à l'occasion de sa récente disparition. La rencontre s'est faite en mai 2017, nous étions chez lui, bien calé en sol majeur, dans son salon de Dakar, avec à portée d'oreille un gramophone superbe, exquis, faisant tourner ses vinyles de sa collection personnelle. Et je vous racontais que derrière le micro de cet ensemble majeur spécial Sénégal se tenait l'un des plus grands spécialistes, chercheurs, musicologues de la salsa, Cuxac, avec ses nuits blanches entre Paris, New York, La Havane et Dakar. On les imagine, hein, ces nuits blanches. C'est ce qui est écrit sur la plus longue carte de visite jamais vue de sa structure, WO. Ça va de l'événementiel à la coordination des festivals internationaux de musique noire, en passant par la production de stars mondiales. Alors, un Cuxac Cusec, c'est ce qu'on savourait avec l'humour qui le caractérisait pour un sol majeur. C'est l'heure de l'apéro avec les petites cacahuètes et les petites olives. Je vous en prie, faites comme chez vous.
Merci.
Dites-moi, vous aimez bien les choses en grand, je dirais, les grands événements. Vous avez un peu un côté folie des grandeurs, non?
Appelons-le comme ça, si vous voulez, mais pourquoi pas. Moi, je suis en Afrique, je fais ce qu'on fait ailleurs, ici en Afrique, à la juste dimension de ce qu'on se doit. Et je l'ai fait, et j'ai montré, autant en Chine même, aux États-Unis et ailleurs, le savoir-faire d'un petit Africain qui peut faire aussi bien que le reste du monde.
Oui. J'aime bien que vous parliez de savoir-faire. Il faut que ça sonne professionnel hein, chez vous. Vous aimez ça. Est-ce que ça s'apprend le goût du professionnalisme ou est-ce que c'est inné chez vous?
Je crois que c'est inné et puis ça s'apprend également. Parce que malheureusement, ici, ça s'improvise. Nos gouvernants n'étant pas conscients de ce que l'industrie artistique, culturelle peut apporter, ne font rien dans ce sens.
Donc vous vous battez contre des moulins?
Non, ça viendra un jour.
En Guantanamo. Ça vous dit quelque chose, ce titre?
Bien sûr.
Comment est-ce qu'on apprend à danser...
La salsa?
Cha-cha-cha.
Vous avez bien dit.
Voilà.
Un bon point pour moi. Bravo, vous avez droit à un gros bisou.
Sur cette merveille signée Abelardo Barroso.
C'est l'une des meilleures interprétations de En Guantanamo qui a été jouée dans les années 20, qui a été chantée par lui indirectement, mais surtout par le septeto habanero. Dans les années 20. Lui, il a repris au début des années 50 avec cet ensemble, La Sensation, mais c'était merveilleux.
Ah, 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 de 1920 más, vengo pulsando la lira, luchando con los soneros. Ninguno me hizo nada. En Guantánamo, la malocina donde yo me sacudí. Uno llamado Pepe Luis Juan Pablo, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, madre, el rato que estuve allí.
Mi muerte, dale mi felicidad. Si te conformidad, yo espero cualquier suerte. Así que mi cuerpo inesté, lo lleve la tamposa. Así yo no quiero llanto, lo lleve por mi ventura.
Cargarme la sepultura, que entone alegre canto.
Abelardo Barroso. Sur RFI, Abelardo qui a commencé comme chauffeur, je crois, du Septeto Habanero, qui est un groupe de la Havane des années 20, et il a fini par les rejoindre en queue de pie. Merci Daniel Cuxac pour cette découverte en sol majeur. Il faut quand même venir jusqu'à Dakar pour avoir le meilleur de la musique cubaine. Une question ?
Quelle heure est-il dans votre vie ?
Eh bien, pour moi, l'heure n'a pas encore commencé. J'utilise une pendule qui n'a pas encore démarré. Non.
Qu'est-ce que c'est que
ça veut dire que je ne suis pas encore né. C'est maintenant que je nais.
Et pourtant, vous êtes un homme extrêmement dans le timing. Hein.
Bon, pour revenir sérieusement à cette question, eh bien, je pense que j'ai fait l'essentiel de ma vie. Bon, j'aurais laissé quelque chose à l'humanité.
Alors, on vous a laissé en début d'émission dans ce Sénégal des années 60, lorsque vous tombiez dans la marmite de la musique, qui allait faire de vous le plus grand collectionneur, le plus grand chercheur aussi. À ce moment-là, les trompettes de l'indépendance politique ne tintaient pas véritablement à vos oreilles. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la chose politique ?
Alors, qu'est-ce que vous appelez politique ? Est-ce que c'est la manière de se comporter de nos gouvernants ?
Bah, il me semble quand même que vous avez relevé les manches et que vous avez été un ami du socialisme et un ami d'Abdou Diouf.
Tout à fait. Parce qu'à un moment de ma vie, j'ai essayé de me faire entendre très fort. Mais j'ai eu quelques déceptions. Et depuis lors, je me suis retiré.
Vous êtes retiré, mais pas tant que ça en même temps, parce que vous avez toujours un regard alors de producteur. Maintenant, vous vous réfugiez derrière cette casquette, mais vous avez produit une série notamment autour de l'ancien président Abdou Diouf. Vous avez aussi commis une longue interview fleuve avec l'ancien président ivoirien Fouad Boigny. Vous vous positionnez comment à ce moment-là ? Parce que...
Disons que ce sont des personnages qui méritaient de se faire entendre. Et à un moment ou à un autre, Oufouette avait besoin qu'on l'écoute dans son intimité. Parce que les gens qui produisaient des choses le concernant, ils voyaient toujours un intérêt, ou on poussait le parti, ou on le présentait comme quelqu'un d'extraordinaire. Alors que moi, je l'ai décrit indirectement comme le personnage qu'il était en réalité dans son intimité, dans sa famille, dans sa politique, etc.
Nous avons des potentialités énormes. Nous avons des hommes intelligents. Mais nos chercheurs viennent directement de la masse analphabète. C'est l'intelligence en jacère qui ne demande qu'à être fécondée. Donc nous avons des moyens de rattraper notre long retard. C'est pour cela que nous sommes attachés davantage à la paix. Si la paix est nécessaire chez les autres pays, les pays développés, elle est indispensable. Il y a une nuance en Afrique.
La voix de Nonan Boigny pour RFI en sol majeur ici à Dakar. Alors dans les kilomètres d'interviews que vous avez de l'ancien président, vous avez choisi de faire entendre cet extrait en particulier, Daniel Cuxac. Pourquoi ?
Parce que c'est quelqu'un qui a toujours prôné la paix. Il y a d'autres passages qu'on ne peut pas écouter malheureusement, où il a mis en exergue ce que le monde aurait pu être si on n'avait parlé que de paix.
Alors vous le dites en off justement, Daniel Cuxac, j'ai été... un redoutable politicien.
Redoutable, je pense, oui.
Alors heureusement que votre fiston m'a remis à Paris avant de décoller pour Dakar une cassette VHS bien précieuse. C'est l'un de vos discours. On vous écoute, c'est en Wolof. Vous nous expliquez ce qui se passe après.
Selon le passé,
c'était lors de la campagne présidentielle de 1993. Disons que là, je m'adressais aux populations d'Abidjan, à Niamey, un quartier périphérique, et je les remerciais d'être venus. C'était dans un stade qui était plat. Le président de l'époque du Sénégal avait envoyé une lettre au président Oufouette Boigny pour lui demander si on pouvait faire une campagne électorale chez lui. C'est la première fois que ça se faisait. Et Oufouette avait répondu, bien sûr. Il y a des relations très particulières entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et vous pouvez compter sur moi.
Alors Diouf, puisque vous avez été proche de lui, il a posé les bases d'un État moderne, il a élargi le multipartisme, il a aussi libéré un petit peu la presse. Et pourtant, vous consommez le divorce en 92.
Non, il n'y a pas eu de divorce. Je me suis éloigné de la politique. Ce n'était pas lié à la personne de Diouf. Voilà.
Point.
Disons-le comme ça.
Ça, c'était hier.
Et aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu la crise de 2011 avec un WAD président sortant qui ne se décidait justement pas à sortir. Il y a eu le mouvement citoyen Y en a marre, qui est en train de rejouer d'ailleurs sa partition en ce moment même contre le président Macky Sall. Comment vous vivez, comment vous regardez tout ça, Daniel Cuxac ?
Je trouve que, bon, on est déjà dans un pays où on peut se permettre d'avoir des avis contraires très forts.
Sans être jeté en prison.
On est jeté en prison de temps en temps, mais bon, c'est normal, c'est la règle du jeu.
Maintenant, vous trouvez que c'est normal, vous ?
Ça dépend, parce qu'il y a des abus parfois, il faut le dire. Je trouve donc que notre politique ici, elle est assez ouverte. Cela laisse le choix aux personnes de pouvoir s'exprimer, mais il ne faut pas en abuser.
Et vous soutenez le mouvement Y en a marre ?
Je ne connais pas.
Comment un ancien politique redoutable moi, comme vous pas, ne connaît pas ?
Vous avez bien dit, vous avez bien parlé, vous avez dit ancien. Les Y en a marre, je crois que c'est un mal nécessaire. Ce sont des jeunes qui expriment ce que le peuple veut, le peuple profond.
M comme micro-sillon.
Oui, je crois qu'on va revenir à nos moutons. À notre micro-sillon, tout près de votre collection de disques dans ce bureau cubain de Dakar où vous êtes, Daniel Cuxac. Alors, combien de disques autour de vous, là ?
33 000. Mais bon, il ne faut pas oublier que j'avais un magasin de disques. Alors, pour la petite histoire, ici, il y avait 3 magasins de disques tenus par des Européens qui faisaient la loi. Et quand j'ai commencé, moi, parce que j'étais steward, je ne payais pas le transport, je payais à peine la douane, je l'avoue aujourd'hui. Donc, ils ont fermé.
Pourquoi ?
Parce que la concurrence était impossible. Ils devaient commander, payer la douane, d'accord, payer le transport. Et ils étaient en retard par rapport à moi. Le disque sortait le lundi à New York, Marvin Gaye. Eh bien, moi, dans la semaine, c'était ici. Les gens, ils étaient informés au rythme des États-Unis, au rythme de la France, au rythme de Cuba.
C'est-à-dire que les coins branchés sur la planète ne sont pas où on croit.
Voilà, exactement.
Il n'y a pas plus branché que Dakar à certaines heures de son histoire.
Comme vous le dites, surtout en celle-là.
Alors je vous ai demandé pour En sol majeur l'impossible, c'est-à-dire de choisir 2 pépites musicales cubaines au milieu de ces 33 000 disques. Daniel Cuxac en DJ, c'est tout de suite pour RFI.
En train d'écouter l'un des morceaux d'Aragon que je préfère, moi. J'ai demandé que si je mourais, qu'on me le mette en continu pendant tout le temps que dureraient mes funérailles, à ce point. C'est un morceau, un enregistrement qui est très très rare. C'est le tcha-tcha-tcha qui a été dédié au cordonnier. Ça n'a jamais été édité sur disque, jamais. Ça a été joué en public. Et donc, du boléro, c'est passé au cha-cha-cha lent. Et la troisième partie, c'est un cha-cha-cha montuno.
Deuxième pépite.
René Alvarez, qui a été l'un des plus grands chanteurs des années 40 et 50.
El paisaje esa es mi madre, las torturas más tremendas de mis días son mis amores. Señor, ¿por qué yo he de vivir así sin saber que el cariño de madre es tan dulce, tan tierno y me deja sin él? Dime, Señor, porque me dejas solo aquí sin conocer el amor de mamá, sin saber. Yo no quiero la vida, no quiero más nada, quiero a mi mamá. Madre, le pido a Dios pueda volverte a ver. Hijos, que madre tenéis, oíd mi voz que retumba, y el que muerta la tenéis, id a llorar a su tumba. Madre, le pido a Dios pueda volverte a ver. Al tocar las dos, el reloj de la mañana, llegó mi hermano a avisarme, a traerme la noticia que había muerto nuestra madre. Salí de casa y robé para enterrar a mi madre. Cuando la estaba enterrando, a la cárcel me llevaron.
Il y a une autre partie de cette chanson où il raconte que de retour d'une course qu'il était allé faire en ville, il est revenu chez lui, il a trouvé sa maison vide. Sa mère était morte.
Vous comprenez l'espagnol, hein, vous traduisez dans votre tête
à force.
La force.
À force,
mais on a une preuve de ça. Une vidéo parmi tous vos trésors, là, une vidéo où on vous voit à la Havane.
En train de faire un discours.
Attendez, vous savez ce qu'on va faire ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va la regarder et vous nous racontez.
Compañero ministro de la Cultura, Armando Ha.
Compagnon ministre de la Culture, compañeros, Armando Ha.
Compañeras, músicos.
Mesdames, messieurs les musiciens,
amigos,
chers amis.
Es más que un placer.
C'est plus qu'un plaisir.
Un honor.
Je dirais que c'est un
como
honneur. Comme je l'ai déjà dit,
para mí,
pour moi,
pequeño hijo de l'Africa,
que ce fils de l'Afrique soit venu jusqu'ici, à vous, pour rendre un hommage à ces personnages qui seront pour toujours les gloires culturelles, musicales de Cuba.
C'est un document intéressant de vous voir dans cette vidéo, Daniel Cuxac, dans cette Havane des années 90. Vous êtes en boubou et vous parlez surtout en espagnol,
oui,
sans notes. Ce que je comprends, c'est que Cuba, qui est un peu en intraveineuse pour vous depuis 72. Voilà. Votre attachement à l'île et à la culture hispanique va bien, bien au-delà de la musique.
Disons que c'est un rêve d'enfant. Un jour, j'entendais le septeto habanero dont on a parlé tout à l'heure, et j'avais demandé un jour à ma mère, pas moi, mais ces gens-là, ils viennent d'où ? Comment ça s'est fait qu'ils jouent cette musique divine comme ça ? Et c'est Dieu qui donne. Ma mère m'a dit, non, ce sont des hommes qui font ça, mais ils sont dans un pays très très lointain, tu ne les verras jamais. Je savais pas ce que c'était Cuba. Donc moi, je me suis mis à rêver, j'ai dit, il faut que j'aille à Cuba. Et un jour, en 1992, j'ai fait venir les septeto habanero en Côte d'Ivoire. Ils devaient jouer le 31 décembre. Ils sont venus le 24. Ils ont joué pour moi dans mon intimité, l'intimité de ma maison. Et j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, tu sais qui joue là ?
Alors, ça veut dire que vous avez été adopté par l'île. Non seulement vous l'avez adopté, cette île, mais vous aussi, vous avez été adopté.
Complètement.
Vous vous sentez cubain, vous, carrément ?
Cubain, ça dépend de ce que vous entendez par cubain. Moi, je suis sénégalais, français. Mais d'âme, d'esprit, culturellement, je sais que je suis assez cubain.
Qu'est-ce que vous voudriez changer comme regard sur cette île, Cuba ? On a beaucoup de préjugés.
Cuba, c'est une petite voix. Cuba ne peut pas s'exprimer, ne peut pas parler. C'est comme si vous faisiez la guerre des ondes. Vous, vous parlez, moi, on m'a coupé la langue. Comment vous voulez que je me défende ? C'est ce qui arrive à Cuba. Cuba, c'est une petite île qui est là de 14 millions à peine d'individus qui subit un blocus depuis plus d'un demi-siècle.
Et vous l'avez vécu dans votre chair, toute cette période-là, puisque politiquement, vous étiez en B72, corps et âme avec
l'île. Absolument, je l'ai vécu. Et la période spéciale, dans les années 89, j'ai aidé 10 000 cahiers que j'ai achetés chez Gilbert Jeune à Paris, que j'ai donnés aux élèves, ainsi de suite. J'ai fait des dons modestement, mais symboliquement, j'ai fait des dons à Cuba. Mais ceci dit, à ma manière, j'ai participé également quelque part à aider Cuba culturellement, en ce sens que je faisais venir tous les groupes cubains en Afrique. En 1979, pour la première fois, j'ai fait venir Aragon. Le président Ofuete ne voulait pas entendre parler de Cubains qui entraient là-bas. Les communistes n'étaient pas les bienvenus dans notre monde ici.
Vous avez la nationalité cubaine ?
Non, pas du tout, mais je peux me considérer quelque part comme cubain. Quand je marche dans les rues, quand je descends à l'hôtel, j'ai des dizaines de musiciens qui viennent faire la queue pour me voir, rien que me voir, me toucher. Ces mêmes musiciens...
Vous touchez, vous êtes devenu une divinité pour eux.
Non, pas jusque-là. Par exemple, il y en a un, Pancho El Bravo. Pour moi, c'était impensable que celui-là, un jour, je le vois, je le touche. Eh bien, moi, quand je venais à Cuba, jusqu'à sa mort, il disait non, moi je ne m'assois pas à côté de toi, je m'assois par terre et je tiens ta main.
On va vous souhaiter la Buenas noches, Daniel Cuxac.
Buenas noches.
Oui, parce que vous savez, dans le monde, on nous écoute aussi la nuit. Avec deux figures dans votre miroir, quand vous les regardez, je ne sais pas ce que vous y voyez, on va voir ça.
Mira, mira cómo es. Mira, pero oiganme, señores, por favor. Mira, otra vez. Fíjense qué lado.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo.
Voilà la voix pour en sol majeur de El Comandante.
Che Guevara. Che?
Non, Fidel Castro.
Fidel Castro.
Oui, mais je comprends parce que vous êtes un peu troublé d'écouter en même temps le piano de Richard Egues juste en dessous.
Tout à fait, Richard. Et vous le voyez là en face de moi.
Il y a une photo là sur le placard.
Voilà, 15 jours avant sa mort. C'est le meilleur flûtiste de tous les temps.
Excellent pianiste hein, aussi.
Mais c'était surtout un flûtiste. Richard, c'était Richard.
Alors, on a eu Fidel Castro, qui était Fidel Castro aussi. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes assez critique, hein, sans le dire trop fort, par rapport aux politiques africaines, mais vous tolérez un Fidel Castro.
Cela veut dire que vous-même, vous avez un point de vue que vous exposez d'entrée de jeu.
Non, mais les historiens le disent assez tranquillement. On parle de son bilan positif sur les questions de santé, d'éducation. Mais les historiens soulignent aussi le fait qu'il a mis en place un système quand même répressif qui punissait quasiment toute forme de dissidence.
C'est ce qu'on me dit. On me dit oui, mais tes gens sont bien gentils, la musique, tout ça c'est bien gentil. Mais le système répressif, comme vous le disiez tout à l'heure, de Cuba, eh ben, etc., etc. Vous avez jugé les États-Unis, vous, avec les gens qu'on exécute. Il y a 15 jours, on en a exécuté combien ? Des Noirs, tous. Et vous en avez parlé ? C'est un système répressif, ils ont fait quoi ?
Je crois que les médias parlent pas mal de la politique
pas assez,
de Trump.
Pas assez, pas
négativement,
assez du tout.
Il me semble,
pas assez du tout. En Arabie Saoudite, on tue tout le temps. Mais comme ce sont les grands propriétaires du pétrole, les amis du grand frère Sam, là, etc. Donc voilà, on n'en parle pas.
Tout ça pour dire que vous avez des fidélités à des hommes, les hommes d'hier, mais que vous êtes en même temps un homme d'aujourd'hui, Daniel Cuxac, puisque vous êtes en train, je vais finir sur une note qui n'a absolument rien à voir ni avec la musique, ni avec la politique, encore que vous êtes en train d'inventer le smartphone sénégalais.
L'avantage de notre produit, c'est qu'il est typiquement sénégalais. À l'ouverture, il y a cette jeune fille très belle qui dit « Salam alaikum, salam bokoum Sénégal » Nagadef qui vous dit « Bonjour, chers compatriotes sénégalais, que puis-je faire pour vous ?» Comme le Siri de iPhone. Et c'est un smartphone qu'on peut utiliser en Côte d'Ivoire, etc., en le paramétrant pour la Côte d'Ivoire, etc., etc.
Une date est prévue, la date de sortie, à peu près ?
Je projette que les fonctionnaires, les étudiants, tout le monde puisse utiliser ces produits. Par exemple, pour les étudiants, on pourrait poser des bornes à l'université qui leur permettraient de prendre leurs leçons directement à ces bornes. Tout ça, c'est prévu.
Tout commence et tout se finit en musique, normalement, avec vous.
Daniel Cuxac, merci d'avoir reçu RFI en sol majeur et bonne continuation sur toutes vos îles.
En sol majeur, @rfi.fr.
Richard Regues avec El Manicero pour refermer cet en sol majeur spécial hommage à Daniel Cuxac. En sol majeur avec Facebook et notre application Pure Radio, en compagnie de Caroline Filliette, Mathieu Salabert, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec la comédienne Loubna Abidar. À demain.